Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier grand rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, l'esprit d'entreprise a-t-il étouffé la révolte des quartiers ? Souvenez-vous, il y a 10 jours, François Hollande était en visite à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Une visite mouvementée dont les médias ont surtout rapporté les huées qui l'ont accompagnée. Beaucoup moins de commentaires sur le motif de son déplacement, le lancement de l'Agence Nationale de Développement Économique ou France Entrepreneur, une structure destinée à encourager la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Sur le papier pourtant, l'initiative des pouvoirs publics se veut ambitieuse. 110 millions d'euros mobilisés, 10 000 entrepreneurs ciblés d'ici 2017 et que l'État promet d'aider dans la durée. En effet, cette question du long terme est bien souvent le point faible des politiques publiques dans les quartiers populaires. Près de 2 fois plus de création d'entreprises que dans les restes des territoires, dit-on, mais aussi 2 fois plus qui disparaissent au bout de 3 ans. La question est d'autant plus sensible que ce terreau économique concentre les espoirs de réussite d'un nombre de plus en plus important des habitants des banlieues. Impossible de ne pas s'interroger sur le lien qui existerait, ou non d'ailleurs, entre ce nouvel esprit d'entreprise et une certaine démobilisation militante sur le terrain. L'esprit d'entreprise a-t-il étouffé la révolte dans les quartiers ? C'est notre sujet du jour. Et c'est un sujet qui s'inscrit dans le cadre de notre programmation spéciale Clichy-sous-Bois, 10 ans après. Journée spéciale ce vendredi et semaine spéciale à partir donc de lundi dernier, opération qui était menée en partenariat avec Presse et Cité. Pour discuter de ce très large sujet avec nous ce soir, 4 invités. Farid Mebarki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Presse et Cité, le journal officiel des banlieues, c'est comme ça qu'on peut le présenter ?
Absolument, journal donc sur les banlieues, fait par des gens issus des banlieues.
Serge Malik est à votre gauche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de SOS Racisme et fondateur de la YUMP Academy. Alors la YUMP Academy, pour nos auditeurs, c'est le Young Urban Movement Project. C'est un programme, une formation en fait professionnalisante qui est à destination des jeunes des quartiers.
Absolument.
Sylvain Fagine, bonjour, vous êtes entrepreneur.
Bonsoir.
Vous êtes vous-même un de ces YUMPers issus de cette académie et vous avez fondé une entreprise, QSERF, qui est une société de vente ambulante de boissons et vous avez gagné le premier prix YUMP de cette académie, justement.
C'est ça.
À votre droite, Rachid Santaki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, Business dans la cité, votre livre au seuil, un manifeste également co-signé avec Brahim Chiki, La France de demain, aux éditions Wild Project. Vous êtes également entrepreneur avec un projet, donc 5 styles, un magazine gratuit sur la culture hip-hop, mais un projet qui est terminé aujourd'hui.
Qui a duré 8 ans, qui a été une très grosse expérience que je partage à l'occasion avec de nouveaux entrepreneurs.
Et on aura l'occasion d'en reparler dans la suite de cette émission. Alors, pour commencer cette émission, il faudrait peut-être revenir sur ce déplacement de François Hollande à la Courneuve dont je parlais il y a un instant. Le 20 octobre, le président de la République est donc venu faire un discours dans une pépinière d'entreprise. Il a parlé de la capacité d'innovation et de création dans les quartiers, notamment de questions d'entreprise. Alors, je vous pose la question à tous les quatre, peut-être pour un premier tour de table. Est-ce que ce dynamisme économique dans les quartiers dont on parle beaucoup, est-ce que c'est un discours ou une réalité concrète ?
Serge Malik. Oui, c'est une réalité, mais c'est une réalité comme sur le reste du territoire, quoi. Enfin, le fait de distinguer la banlieue du reste du pays est déjà une faute. Et pas seulement une faute dialectique, c'est une faute politique et c'est une faute majeure. Donc moi, je joue pas ce jeu-là. Et pour moi, ce qu'il y a dans les quartiers, c'est ce qu'il y a partout, quoi. Donc d'ailleurs, vous avez qu'à voir autour de cette table, c'est la diversité est largement représentée et exactement comme elle est dans tout le pays.
Farid Mebarki.
Il y a du dynamisme, mais comme dit Serge, effectivement, qui est aussi à mettre, j'ai envie de dire, sur les autres territoires de France. Je pense qu'il y a, de manière générale, quand on parle d'entrepreneuriat, on est sur, on touche à des passions. Quand je dis, quand on pose à quelqu'un la question, est-ce qu'il aimerait être son patron autonome, gagner de l'argent, on a tout de suite ce mythe, ce rêve, et forcément, il va dire oui. Et donc, dans les banlieues, peut-être, alors, pas du côté de la création, mais du côté des fantasmes et des représentations qu'on peut avoir de l'entrepreneur, il y a effectivement, peut-être plus qu'ailleurs, un désir, une pulsion, j'ai envie de dire, et je parle vraiment que de pulsion, pas forcément d'acte créateur, de pulsion pour être entrepreneur. Alors, est-ce que ça va se concrétiser ? Point d'interrogation.
On a un entrepreneur donc parmi nous ce soir, Sylvain Fagine, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous le sentez, vous, cette ébullition sur la question de l'entrepreneuriat en banlieue ?
Ben, en fait, oui, ça bouge plus sur l'entrepreneuriat en banlieue parce que, d'une part, on est aidé par des acteurs qui sont surtout des acteurs privés, malheureusement. Moi, j'ai suivi, pour ma part, le YUMP Academy et ce qui m'a permis de créer mon entreprise, même si pour l'instant elle n'est pas trop florissante, mais au moins je suis devenu autonome. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce désir d'entrepreneuriat, il répond à un besoin de sortir d'une crise économique, sociale, puisque nos quartiers, nous on a l'impression qu'ils sont abandonnés.
Et c'est impossible de le faire sans se prendre en charge soi-même en fait.
On se prend déjà en charge nous-mêmes. On se prend depuis longtemps en charge, c'est-à-dire qu'on est avec des difficultés sociales, économiques et autres, et que ça fait depuis longtemps qu'on fait les choses par nous-mêmes, mais pour faire les choses bien, encore faut-il être bien accompagné.
Rachid Santaki, l'avis du romancier ce soir ?
Du romancier, puis de l'entrepreneur, et aussi de l'homme de terrain. Quand on est en périphérie, on s'adapte, on est dans le système D. La débrouille et la réactivité. Donc déjà, ce sont des valeurs qui sont propres à l'entrepreneuriat. Et les gens qui habitent en périphérie, ils se créent leur propre autonomie économique. Donc il y a déjà cette fibre. Après, il faut la transformer en quelque chose de déclaré, de légal. Mais c'est quelque chose qui existe. Voilà, on est obligé de se débrouiller. Donc on a cette fibre. Et ça, c'est pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait rebondir avant tout. Donc cette fibre, on l'a maintenant. Comment on la raccroche à notre société ?
Oui, pardon, juste un point extrêmement important, parce que Sylvain vient de dire quelque chose. Moi, je voudrais quand même ajouter que l'État, c'est-à-dire nous tous, l'État français est d'une générosité incroyable à l'égard des quartiers. Il faut pas dire le contraire. C'est-à-dire que l'État dépense un argent absolument dingue depuis un temps absolument dingue. Le problème, c'est que les gens qui récupèrent cet argent et ceux qui sont chargés de le dépenser, le dépensent pas comme il faudrait le faire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président de la République a souhaité réorganiser tout ça et peut-être voir. Alors après, on va voir comment les conséquences, parce que nous, on croit plus tellement dans.
Alors, c'est une mauvaise organisation, c'est du clientélisme carrément.
Non, pas du tout. C'est des grands réseaux qui sont. Vous n'avez qu'à regarder. Il n'y a que des stars qui dirigent le réseau. Vous avez monsieur, comment il s'appelle, monsieur Attali, vous avez madame Barbarou, vous avez. C'est que des gens qui sont
pas connectés au terrain.
Ils ne sont pas du tout connectés au terrain. C'est des gens qui sont hors sol. Et ces gens-là sont les patrons de réseau. C'est eux qui donnent l'input sur le terrain de ce qu'il faut faire avec l'argent qu'on leur donne en énorme quantité. Et c'est leur responsabilité. De rebattre les cartes, de regarder, de faire un état des lieux, de faire un bilan. Il n'y a pas un seul de ces réseaux, d'ailleurs, qui rendent un bilan. Il n'y en a pas un seul qui dise qu'est-ce qu'il a fait, qui donne des mesures d'impact, etc. Il n'y a rien. On n'a rien là-dessus. Donc, déjà, commencez par dire à ces gens, attendez, messieurs, vous voulez faire la star dans les quartiers populaires, alors vous n'y avez jamais mis les pieds, faites-le, mais au moins faites-le bien, quoi.
Un mot qui revient dans les analyses, justement, sur cette situation, c'est l'idée du saupoudrage des moyens publics dans la politique de la ville. Est-ce que sur le terrain, c'est quelque chose que vous sentez? Farid Mebarki.
Je pense qu'il y a du saupoudrage, oui, mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est qu'il y a de moins en moins de ressources qui sont accordées aux acteurs des quartiers, alors prioritairement les associations. Donc le saupoudrage, il y en a peut-être eu, certes, ça a été une grande critique qu'on a fait à la politique de la ville, le millefeuille, etc., je ne reviens pas dessus. Mais moi j'ai plutôt l'impression que depuis quelques années, il y a plutôt une concentration des moyens sur ce qu'on appelle des opérateurs, souvent paramunicipaux, etc., et que toutes les associations qui aujourd'hui irriguent les quartiers populaires par tout un tas d'initiatives culturelles, sociales, économiques également, sont de plus en plus un peu laissées à l'abandon. Je vais prendre mon exemple. Presse et Cité, donc, c'est un réseau, c'est aussi une association. Nous sommes aujourd'hui presque le 1er novembre 2015. Je n'ai toujours pas reçu de subvention pour l'année 2015. Voilà. C'est une réalité pour tous les acteurs des quartiers.
Alors, on parle d'entreprises qui se créent. Hein. Je crois qu'il faut reciter le chiffre qui avait été donné par Myriam El Khomri. Près de 2 fois plus de création d'entreprises que sur le reste du territoire. Mais à la fin, des entreprises qui ferment aussi plus tôt que dans la moyenne nationale. Est-ce qu'il y a cette fragilité ? Est-ce que vous la sentez ? Je pose la question à vous, l'entrepreneur Sylvain Fagine. Est-ce que cette fragilité des entreprises, elle est réelle ?
Non, moi, je sens pas de fragilité des entrepreneurs en banlieue, pas plus qu'une fragilité des entrepreneurs dans le Cantal ou dans le Sud. C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'entrepreneuriat et qu'effectivement, devenir son patron, c'est risqué. Ça, faut le dire à tout le monde. C'est pas demain, ça prend du temps. Faut s'investir, faut travailler. Et ça, c'est un parcours de longue haleine qu'il faut avoir la force de mener.
Mais là, pardon, mais il y a aussi la course d'obstacles, parce que entreprendre, c'est une course d'obstacles en soi. Rachid l'a dit tout à l'heure, il a raison. Mais après, quand on ajoute des obstacles, ou plutôt quand on élève la hauteur des obstacles, quand vous parcourez un 110 mètres haie, que la barre est à 90 cm, bah, tout va bien. Mais s'il y a un mec qui vient et qui l'a foué à 1 m60, vous faites quoi? Bah, vous pétez la gueule. Et ben, c'est ce qui se passe dans les banlieues, c'est ce qui se passe dans les quartiers, parce que la discrimination qu'on pourrait d'ailleurs dire le racisme, parce que la discrimination, ça veut rien dire. Le fait qu'un type puisse pas passer le sas d'une banque quand il a pas la gueule qu'il faut, ou pas l'adresse qu'il faut et pas le nom qu'il faut, bon, ça c'est déjà un vrai sujet, quoi. Donc commençons par là.
Alors, est-ce que c'est ça vraiment la première raison? Parce qu'on parle aussi des questions de réseau. En France, on sait l'importance des grandes écoles. Alors évidemment, dans les quartiers populaires, c'est quelque chose qui peut être vécu dans le sens inverse de façon très difficile. Est-ce qu'il y a cette question justement du racisme que vous dénoncez, la question des réseaux d'appartenance? Quelle serait peut-être la question pour la réussite de l'entreprise?
Déjà, moi, mon expérience personnelle, c'est depuis 2011, on détecte dans les quartiers, et j'ai grand peine à trouver des gens qui sont bac moins. Je n'ai que des gens qui sont qualifiés, que des gens qui ont fait des études, uniquement. Mais quand vous êtes une femme, que vous êtes voilée, que vous êtes musulmane, que vous soyez bac plus 7 ou bac plus 14, ça change strictement rien au fait que vous allez être droit dans un mur de verre et que vous allez vous écraser sous un plafond de verre. Il n'y a absolument aucun autre destin qui vous est offert dans les quartiers populaires, mais ailleurs d'ailleurs. Vous venez à Paris, c'est pareil.
Farid Mebarki, vous voulez réagir aussi?
Oui, obstacle. Enfin, je pense que Serge a raison de marteler ça. C'est-à-dire qu'on peut. Il y a un problème fondamental en France sur l'entrepreneuriat, c'est la sous-capitalisation des entreprises qui sont créées. C'est-à-dire qu'on commence avec très peu de capital. En moyenne, pour des jeunes de moins de 25 ans, on commence une boîte, on démarre une boîte avec 2000 euros d'apport. Qu'est-ce qu'on fait avec 2000 euros?
J'ai commencé avec 300 euros pour te dire.
Qu'est-ce qu'on commence avec, en moyenne, c'est 2000. Qu'est-ce qu'on fait avec 2000 euros? C'est-à-dire, là, il y a vraiment un problème. Et donc, la durée, forcément, compte tenu des obstacles, accès au crédit, accès aux banques, accès aussi au réseau de pairs entrepreneurs qui vont pouvoir vous aider également, ça pose vraiment tout un tas de difficultés. Et c'est pour ça, moi, je partage pleinement l'avis qui a été souligné ici, qu'il faut changer de braquet, c'est-à-dire les grands réseaux qui aujourd'hui surplombent un peu les quartiers. On doit essayer d'inverser la donne et faire en sorte que dans ces quartiers, on puisse identifier les ressources propres pour accompagner les acteurs locaux.
Sur ces questions des difficultés concrètes, vous, l'entrepreneur Sylvain Fagine, dans la création de votre entreprise, vous avez rencontré des choses similaires?
Alors oui, moi j'ai eu pareil, hein, le parcours du combattant, mais pour donner mon exemple et l'état actuel de la situation pour les entrepreneurs qui peuvent sortir des quartiers ou qui n'ont simplement pas d'argent, c'est que moi j'ai eu besoin pour démarrer, pas d'un grand fonds, mais de 2500 euros. Donc j'ai été au salon, comme un bon élève, j'étais au salon de la micro-entreprise, au salon de ceci, au salon de cela.
Et puis, un mot sur votre parcours. Donc, vous êtes Youmper, donc on en a parlé en début d'émission. Cette formation, ça vous a aidé concrètement? Combien de temps ça dure? Est-ce que tout le monde peut y participer d'ailleurs?
Alors là, j'ai le plaisir de parler de Yoump Academy, parce que c'est vrai que pour moi, Yoump Academy, ça a été mon vrai moteur. C'est-à-dire que pour moi, je l'appelle un accélérateur, et ça a marché pour moi. En décembre 2014, je suis devant l'ordinateur, j'ai eu mon idée, je suis devant l'ordinateur et j'envoie un mail de deux lignes à la SNCF pour présenter mon entreprise, mon soi-disant concept. Et par contre, six mois après avoir bénéficié gratuitement, je précise quand même, c'est très important, de Yoump Academy, j'ai créé mon entreprise, j'ai un numéro de CABIS, je suis en relation avec un PDG de grand groupe pour bientôt effectuer un test sur les musées parisiens.
Partenaire de Yoump.
Merci Serge, partenaire de Yoump. Et voilà.
En fait, juste une petite précision quand même, parce que
Serge Malik.
Yoump, c'est vrai que c'est gratuit, ça dure 6 mois, c'est professionnalisant, ça aide, c'est un accélérateur. Mais moi je veux revenir sur les 2500 euros, parce que Sylvain a besoin de 2500 euros. C'est quoi les réseaux aujourd'hui? Un réseau, c'est quoi? Les grands réseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détecter des gens qui veulent monter des boîtes et la seule chose qu'ils leur proposent, c'est de s'endetter. Tenez, on va vous donner de l'argent. Mais si vous savez pas quoi en faire, ça sert strictement à rien. Former, c'est essentiel. C'est la première chose, c'est la porte d'entrée. Et si on forme pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on endette des gens qui savent pas quoi faire de l'argent qu'on leur a prêté et qui sont endettés souvent pendant 5 ans. Et moi, j'ai même entendu mieux que ça. Je sais pas si t'étais là, Rachid. T'étais là, Farid. J'ai entendu dire quelqu'un. Moi, je préfère plutôt que d'aller. Je cite pas les réseaux parce que je veux pas me sortir d'ici boiteux. Donc, je préfère emprunter au CTLM, c'est moins cher.
Mais oui.
Parce qu'en plus, les taux d'intérêt pratiqués par les réseaux sont énormes.
Malheureusement.
pas de structure spécifique créée pour ces questions d'emprunt. Votre parcours à vous, Rachid Santaki, on voulait en parler, puisqu'on avait discuté dans le début de cette émission de votre entreprise 5 Styles.
C'était une entreprise de presse que j'ai montée avec 300 euros. J'avais un ami imprimeur qui m'a fait une traite de 60 jours et ça a été mon fond de roulement et ça a démarré comme ça. Après, je me suis formé aussi au démarchage commercial, parce qu'au début, j'appelais, c'était un magazine sur les cultures urbaines, donc j'étais un petit peu agressif dans la manière de démarcher, dans la manière aussi de diffuser. J'ai appris sur le tas. Le problème, c'est que, et je pense que c'est ce que disait tout à l'heure Serge, c'est pas d'avoir des moyens financiers, c'est plutôt d'être hyper compétent. Pas compétent, hyper compétent. Quand on est hyper compétent, les obstacles de 3 mètres, on les saute. On va les braver, il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais pour ça, c'est aussi pour ça que c'est fragile pour les entrepreneurs, parce que du coup, j'interviens auprès d'entrepreneurs, l'ADI et d'autres structures. Il faut vraiment avoir des gens qui, quand ils ont un projet, il ne faut pas que ce soit une énième marque de streetwear, etc., mais plutôt quelque chose de pertinent, savoir communiquer. Parce que quand on gagne des prix, que ce soit avec Yump ou d'autres structures, on est aussi valorisé l'aspect communication. Et du coup, après, c'est grâce à ça aussi qu'on rentre en relation, qu'on rentre dans les réseaux. Donc tout à l'heure, ce que disait Serge sur ces grands groupes, en fait, déjà, manque de terrain et il n'y a pas de passerelle. Donc l'argent qui est diffusé, enfin distribué, c'est pas du saupoudrage, c'est que c'est juste donné et que ça ne forme pas la base, l'entrepreneur. On lui donne des faux moyens et du coup il va se planter. Donc vraiment c'est important, savoir communiquer, savoir développer son portefeuille
commercial. Et pourtant il y a une revendication permanente de la part de ces grands groupes, de ces grands réseaux plutôt, qui prétendent, qui balancent des chiffres. Nous on a prêté à 140 000 personnes, on n'a jamais vu de résultats, on n'a jamais vu de bilan. C'est uniquement de la revendication. Et donc ça, il faut sortir de ça. Et j'espère que l'agence voulue par le président de la République va nous permettre de le faire.
Je voudrais vous demander à tous votre sentiment 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois sur l'état de l'esprit civique, si on peut appeler ça ainsi. On parle beaucoup d'individualisme. Vous êtes ici parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Est-ce que cet individualisme, justement, vous le constatez au quotidien? Est-ce que c'est le résultat aussi de l'idée générale qu'il ne faut plus rien attendre d'en haut dans ces projets de développement d'entreprise?
Je voudrais rebondir. 2005, en fait, on a parlé des révoltes sociales. Mais pour moi, c'est plutôt une bascule, en fait. Avant, on était vraiment dans un quartier. Il y avait le côté, on est de gauche, traditionnel et tout. 2005... Les jeunes, en fait, ont montré une rupture de l'extérieur aussi, les rapports avec la police suite au décès de Ziad Debouna, mais aussi une rupture avec leurs aînés. Ces jeunes-là, ils sont entrés dans l'ère du capitalisme. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, la valeur première, c'est l'argent. Donc, ils ont
assimilé ça. On parle même d'américanisation de ces quartiers, de mythe du self-made man, c'est quelque chose qui est...
Non, c'est pas ça. En plus, pas tout à fait avec adapté, les États-Unis, il y a la théorie du complot, il y a des trucs hyper compliqués, donc c'est pas sur ce terrain qu'il
faudrait aller. Peut-être pas forcément en parler ce
soir. Non, on est sur de l'individualisme. Le capitalisme, aujourd'hui, quand vous dites à un jeune, viens, on fait un projet. Le jeune, il va te dire quoi? Combien ça me rapporte? On parle d'argent. Maintenant, un jeune voulu parler de quelque chose, c'est de l'argent. Il n'y a pas de civisme, c'est de l'argent. C'est ça la valeur aujourd'hui.
Farid Nebarki.
Moi, je pense qu'il y a 2005, c'est le crash, d'une certaine manière, de plus de 30 années d'action dans les quartiers, d'action portée par le secteur associatif, par des militants. Et depuis 2005, on n'a rien reconstruit. Et on n'a jamais, le pouvoir public majoritairement, n'ont pas essayé de reconstruire avec les quelques forces qui pouvaient encore rester dans ces quartiers-là, forces associatives, mouvements d'éducation populaire, etc., syndicats, quand il y en avait encore, etc. On n'a rien voulu reconstruire. Et c'est vrai que le sentiment aujourd'hui, c'est plutôt que les gens essaient de se construire des perspectives, parce qu'ils y sont durablement dans ces quartiers. Des perspectives avec des moyens qui sont l'entrepreneuriat en étant. Voilà.
Mais c'est évident, mais il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut regarder, c'est que aujourd'hui, la société, les sociétés contemporaines, elles ne sont plus rattachées à la problématique du salariat. Le salariat, ça n'existe plus. C'est en voie de disparition. C'est en train de se dissoudre dans une économie qui est une économie de plus en plus individualiste. Et puis regardez les grands succès aujourd'hui des boîtes complètement virtuelles, les blablacars, etc. Ils fonctionnent à 5, 6, 7, 8. Ils ne vont pas embaucher 500 personnes. Donc ça ne sert à rien de parler de numérique, de parler d'innovation technologique, etc. en pensant que ça va recruter des centaines de milliers de personnes. C'est faux. Donc ça, les gens dans les quartiers l'ont parfaitement compris. Et ce qu'ils veulent maintenant aujourd'hui, c'est se procurer leur propre emploi, éventuellement en faire profiter... De, deux, trois personnes autour, deux, parce qu'ils sont rarement seuls, ils sont souvent associés, il faut pas jamais oublier ça, et donc ils sont souvent associés avec 2, 3, 4, 5 potes, et donc ça, le mode même de fonctionnement n'est plus du tout le même. Mais juste un mot sur le
Justement sur ce que vous dites, est-ce que il vous semble que les quartiers populaires sont à l'avant-garde en quelque sorte, si on peut le dire de façon comme ça, de ce qui se passe, puisqu'on parle beaucoup du travailleur indépendant comme nouvelle figure du salariat, etc. Ou est-ce qu'ils sont
Écoutez, moi j'ai écrit, ça fait 20 ans que j'écris là-dessus en disant que évidemment que les quartiers sont. Attendez, la mode, elle vient d'où ? La mode vestimentaire, elle vient d'où ? La mode musicale, elle vient d'où ? D'où viennent les nouveaux mots ? D'où vient le dictionnaire ? Enfin, regardez autour de vous. Évidemment que tout vient des quartiers. Les quartiers, c'est la ressource. Les quartiers, comme au Moyen-Âge, les quartiers, c'est la paysannerie qui produit l'essentiel de la culture. Et pas seulement la culture, parce que là, je parle d'agriculture, mais de la culture d'une manière globale, générale. La banlieue, je la trouve extrêmement généreuse à l'égard de la ville, qui par ailleurs la réfute.
Est-ce que sur le registre du combat, parce que vous avez fondé donc SOS Racisme en 84, est-ce que sur le registre du combat, par rapport au phénomène que vous décrivez, vous avez vu ce changement, justement, cette individualisation et ce glissement vers une société un peu éclatée, dans les banlieues en particulier ?
Oui, mais j'ai surtout vu des gens de très bonne volonté. J'ai vu des gens de plus en plus intelligents. J'ai vu des gens des solidarités de plus en plus construites. J'ai vu la dissolution d'un certain nombre de détestations, de haine, etc. Et quand vous regardez les émeutes de 2005 dont vous parlez, enfin, comment ne pas réagir ? On pend votre père devant vous, on tue vos enfants devant vous, pour rien. Comment voulez-vous ne pas réagir à ça ?
Sur ce que dit Malik, il a dit, enfin Serge, sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des éléments négatifs. Moi, je pondérais ce que dit Rachid. C'est-à-dire, c'est pas un hyper-capitalisme débridé, sans morale, etc. Il y a aussi, au travers d'initiatives qui sont très clairement aujourd'hui construites sur des réflexions économiques, sur comment par rapport à une initiative solidaire, comment par rapport à de l'aide de devoir, par rapport à de la culture. Si on prend le hip-hop par exemple dans les quartiers, le hip-hop il n'attend pas les financements publics, il se débrouille. D'ailleurs, c'est des studios indépendants, ils ont un modèle économique, etc. Donc on a tout un tas d'initiatives qui créent de la richesse, mais de la richesse culturelle, qui créent de la solidarité, mais qui ne s'adossent plus à de vieux modèles, qui s'adossent sur aussi des nouveaux modèles économiques qui émergent.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Ouais.
Vous écoutez France Culture, je suis Antoine Duster, vous retrouverez Hervé Gardette qui est souffrant dès lundi matin. Du grain à moudre donc avec notre sujet du jour, l'esprit d'entreprise a-t-il étouffé la révolte dans les quartiers ? On vient de parler de politique, de travailleurs indépendants, de droit du travail évidemment. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour le dire de façon provocante, que la banlieue a viré à droite ? On a vu aux dernières élections. Est-ce que la banlieue est de droite ? Je vous pose la question à vous, Serge Malik. Est-ce que la banlieue...
Non, mais non. Attendez, ça veut rien dire. La banlieue, d'abord, la banlieue, ça n'existe pas. Moi, j'en ai marre qu'on parle de la banlieue. Moi, si vous voulez parler des zones de relégation, etc., des cités abandonnées, tout ce que vous voudrez. Mais là, moi, quand je parle avec des gens qui habitent dans des cités, quand je parle à Victorin, à Aulnay, qu'est-ce qu'ils voient dans une tour ? Ils voient la possibilité d'y loger des classes moyennes, il essaye de trouver des moyens. Vous n'imaginez même pas l'intelligence, vous n'imaginez pas l'échange des bonnes pratiques, tous ces gens se parlent. Regardez, nous tous, on se connaît, on se fréquente, on se respecte. Mais on pourrait être 500 ici à tous se connaître. Essayez de faire la même chose dans Paris.
C'est
de
très froid Paris, ce que je voulais dire tout à l'heure.
Essayez de trouver dans Paris le même esprit d'entre non seulement d'entreprise mais de solidarité, de convergence vers. Mais aussi on s'engueule, on n'est pas d'accord sur tout. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans les quartiers aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que
déjà un taux d'abstention, ça il faut le signaler. Des mobilisations politiques partisanes classiques.
Mais non, c'est une recomposition des
choses.
Bien sûr, c'est autre chose.
Sur l'absence de vote, c'est qu'en fait, on est finalement en périphérie. On est dans une société parallèle. On se débrouille. Je parlais de système D, etc. On invente son économie. Et donc, du coup, les politiques, concrètement, ils n'existent pas. Et l'intérêt du vote, les habitants, pour beaucoup, parce que c'est des 60-70%, par exemple, à Saint-Denis, voient pas l'intérêt de voter. Non. Et donc, du coup, soit ça va être une perspective pour quelqu'un qui va se mettre en avant, mais de manière générale, non, le vote, ça ne changera rien.
Mais est-ce que c'est la preuve, ça, de l'abandon, justement, des quartiers populaires par les partis politiques classiques ?
Non,
il y a toujours, à défaut de partis politiques, il y a toujours du politique, en tout cas, c'est ce que vient de dire, justement, Serge Malik en banlieue. Sylvain Fagine, vous vouliez réagir, vous, par rapport à votre parcours, justement ?
Oui, moi, j'habite en plein cœur des banlieues, j'habite à Villepinte, j'ai vécu à Bondy, j'ai traîné partout. Et en fait, moi, ce que je constate au niveau de ma génération, des 30-40 ans, c'est que nous, pour notre part, on n'a plus d'illusions sur les politiques. C'est-à-dire, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils tiennent leur parole. Quand les politiques nous disent « on va vous aider », effectivement, qu'ils viennent nous aider, mais concrètement, comme on disait tout à l'heure, qu'ils ne donnent pas des sous à des gens pour faire les beaux, et puis nous, on reste là à les regarder et à ramasser les miettes.
Alors, je voulais vous citer aussi, je vais vous lire réagir, Monsieur Mebarki. Je vais aussi citer un article que vous avez co-signé avec Erwan Ruti sur le site de Presse et Cité. Alors, je vous cite. Les organisations politiques, syndicales ou d'éducation populaire n'ont pas souffert de perspectives convaincantes aux leaders, n'ont pas offert, pardon, de perspectives convaincantes aux leaders qui ont émergé de ce drame. Du moins, elles n'ont pas offert de perspectives capables de convaincre la majorité silencieuse des banlieues que la politique était une réponse crédible pour tirer ces territoires de la chute collective qu'ils vivent. C'est très négatif, quand même, ce jugement.
Non, c'est assez négatif, mais moi, je pense que c'est des faits. Quand vous dites qu'il y a un abandon, que les partis, les cadres d'organisation de la République ont abandonné ces quartiers, oui, elles les ont abandonnés. Je pense que c'est désormais durable. Elles ne reviendront pas. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas une organisation qui a mis la question des quartiers populaires au centre de sa politique. Il n'y a qu'un homme politique qui l'a fait en France, de la manière
des secrétaires d'État, des ministres, oui, des personnalités des partis politiques qui sont issus des quartiers populaires.
C'est technique, c'est normal, mais je pense les partis, c'est-à-dire quel discours aujourd'hui émerge depuis les partis ou les syndicats concernant les banlieues? Aucun. Il n'y a qu'un homme qui a associé son destin politique au plus haut niveau aux banlieues, de manière parfois... je veux dire, dans les outrances qu'on a connues, c'est Nicolas Sarkozy. C'est le seul. C'est-à-dire qu'il a associé son destin aux banlieues. Avec le Karcher, avec tout un tas de déclarations, avec aussi le fait, quand il était ministre de l'Intérieur, de vraiment souffler sur les braises à chaque fois qu'il le pouvait. C'est le seul à l'avoir fait. Les autres, ils sont en retraite, ces questions-là. Et la venue du président Hollande, récemment en Seine-Saint-Denis, sous les huées, montre quand même le divorce qui est croissant. Alors que François Hollande a fait des scores nord-coréens dans certains quartiers.
Sylvain Fagine, vous voyez réagir.
Oui, moi, je suis un peu comme Serge, ça me dérange. Serge Malik. Tout à l'heure, oui, Serge Malik, qu'on dise les quartiers, je me sens un peu pointé, en fait. Mais ce qui se passe, c'est quand on parle des quartiers comme ça, au lieu de dire la ville de ceci, ou plutôt le 93, parce que c'est quand même notre département qui est le plus pauvre de France, hein, faut le dire. Et moi maintenant, grâce à Ayoub...
Et le plus peuplé.
Ça je voulais pas non plus en rajouter. Mais et grâce à Ayoub, moi je vais à Levallois-Perret, à Neuilly, etc. rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres personnes. Et je vois la différence. Ce qui se passe quand on parle des quartiers, c'est révélateur d'un état d'esprit de ghettoisation de tout le monde en fait. On met des étiquettes sur tout le monde et on empêche tout le monde de se rencontrer. Parce que le quartier, moi je travaille en ce moment près de la Tour Eiffel, pour les avis aux amateurs. Je vois que, comme disaient les inconnus, Auteuil-Passy-Neuilly, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est des gamins qui connaissent rien d'autre. Nous, on est des gamins, on connaît rien d'autre parce que chacun...
Ils ne sont pas impliqués par le destin de la collectivité, ils n'ont pas de lien justement avec l'extérieur de leur quartier.
C'est que la collectivité est dans une partie, les médias sont, excusez-moi, mais un peu responsables, quand on parle de quartier.
On accepte la critique, en tout cas.
Merci. Excusez-moi, mais je voudrais... Attends, juste... Autorise-moi ça. Je voudrais juste rebondir là-dessus, c'est que on a quand même un problème avec l'image des quartiers. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, quand on s'est parlé avant l'émission, l'image des quartiers, elle est absolument déplorable. Et la même image déplorable est transbahutée d'émission de télé en émission de télé, en émission de radio, en article dans de presse, etc. Il n'y a rien qui répare ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre en compte cette idée que les gens qui vivent dans les quartiers, ben, ils ont besoin aussi d'être un peu plus, d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Pour avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, il faut déjà commencer par ce qu'ils aient une meilleure estime de leur quartier. Et donc, on leur renvoie une image qui soit un peu plus positive que celle qu'on leur donne.
Sur cette question de la représentation médiatique, justement, des quartiers, je voulais vous poser une question à vous, précisément.
Je voulais juste rebondir sur l'histoire des médias.
Vous, justement, vous êtes au cœur de cette démarche médiatique.
2005, il y a une bascule et il y a quelque chose aujourd'hui très important. Vous parlez de ghettoisation, et la ghettoisation, elle vient surtout des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a chacun nos réseaux sociaux, l'ère numérique, elle change les choses aussi. On est dans des tiroirs et on va plus vers l'autre. Donc ça joue vachement pour ces nouvelles générations.
Ouais, c'est vrai, mais Rachid, tu peux pas. Attends, excuse-moi.
Et autre chose aussi qui est très important, Quand aujourd'hui on va à Saint-Denis, alors je ne parle pas de, par exemple, Montfermeil où vous avez encore des bars qui existent, etc. La banlieue, elle est dématérialisée. Physiquement, c'est devenu les projets en rue, etc. On fait disparaître la banlieue. Sauf que la banlieue, quand vous parliez tout à l'heure de moyens, elle est restée dans l'esprit des gens. Là où je te rejoins sur l'image négative. Voilà. Mais ce sont pas les médias. C'est pas les médias. Non, c'est pas les médias parce que les jeunes aujourd'hui.
Sur cette question des débats, Farid Mermaki, vous êtes vous donc dans cette démarche justement médiatique avec donc précécité. Est-ce qu'on peut faire exister les quartiers sur le plan médiatique et politique? Est-ce que votre démarche justement à vous c'est ça?
Bah, bien sûr, c'est-à-dire investir la question des médias, c'était aussi de créer les conditions pour que le grand public puisse avoir, j'ai envie de dire, une vision autre, une vision dans la complexité de ces quartiers populaires. C'était l'objectif. Et
alors combien de médias d'ailleurs chez vous?
C'est fluctuant parce qu'on parle d'initiatives économiques. Ces médias, quand on a commencé, on était 50. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine. Certains périclitent, certains s'endorment parce que c'est très difficile, mais tous les médias le savent, de trouver un modèle économique viable pour pouvoir faire un média digne de ce nom et pas un blog qui végète sur la toile. Donc c'est assez difficile de le faire et la volonté était véritablement celle-là, c'est-à-dire transformer effectivement ce qui était un discours dominant complètement tronqué sur les médias et à charge en non pas quelque chose d'angélique, mais quelque chose qui aille vers la complexité. C'est-à-dire comment on arrive à voir les quartiers comme étant des environnements
complexes. Est-ce que
complexes.
Vous sentez justement de la part des journalistes et des gens qui travaillent justement pour ce réseau de médias un engouement particulier, un engagement citoyen pour le coup et politique?
Étant en première ligne là-dessus,
est-ce que c'est de la politique
depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, je vais dire que 2005, mais aussi tout un tas d'événements aussi précédemment, notamment ce qu'on pourrait appeler des bavures médiatiques, ont fait en sorte qu'il y a effectivement une prise de conscience chez les journalistes. Je le dis clairement, y compris des grands médias. Il y a d'excellentes choses qui se passent dans les médias sur les banlieues, la manière dont c'est traité, etc., sur la fiction, etc. Je le dis, moi, j'ai pas. Mais il y a aussi, comme c'est aujourd'hui le cas, les médias et les grands médias, dévissent aussi des audiences, etc. Aujourd'hui, l'information, elle se fait plus sur les grands médias. La grand-messe du 20h est enterrée. C'est les réseaux sociaux. Et là, il se passe le pire et le plus inquiétant.
Exactement. Non mais alors, regardez, parce que moi, je voudrais quand même revenir à la question du territoire. Parce que quand même si je donne tout à fait acte aussi bien à Rachid et qu'à Farid de ce qu'ils viennent de dire, sur la question de la dématérialisation des territoires, n'empêche que sur la question médiatique, mais aussi sur la question politique, la problématique des territoires reste entière. Pourquoi? Parce que le territoire, c'est le modèle ancien. C'est le vieux modèle dont Farid parlait tout à l'heure. C'est en gros ce qu'on a encore c'est ce qu'on a encore dans le regard, c'est ce qu'on a encore en vue. Quand on parle des quartiers, quand on parle de banlieue, on pense à des territoires déshérités ou en déshérence, ou des lieux sales ou dangereux ou que sais-je encore. Voilà comment on le perçoit, et on n'a pas encore fait cette bascule mentale, ni les médias ni personne ne l'ont encore fait, et sûrement pas les politiques, de regarder la banlieue comme étant d'ailleurs les premiers utilisateurs des réseaux sociaux, les premiers à communiquer d'une manière totalement virtualisée, et ça personne ne le prend encore en compte aujourd'hui.
Je voudrais réagir sur l'aspect juste. Rachid, il y a quelque chose de très important. Dernièrement, sur les cantonales, j'ai mené une expérience politique par mois. Je ne me suis pas engagé, mais j'ai suivi ça. Aujourd'hui, il y a aussi... Tu parlais d'image. Alors, c'est vrai qu'on a une image négative, mais il y a aussi, en périphérie, en banlieue, on vise sur le court terme. On n'a pas appris à faire du moyen et du long terme. C'est aussi le problème des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, quand tu vas lui dire, il y a 30 ans, il y avait des associations militantes, etc., ça, pour eux, c'est du long terme. Ça n'existe pas, du moyen terme. Et donc, c'est très difficile de construire politiquement. Parce qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un qui s'engage pour l'intérêt commun, c'est quelque chose déjà qui ne va pas avec les valeurs, justement, d'argent, matériel, etc. Et c'est compliqué. Donc, il y a aussi un problème de l'intérieur. Dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de construire parce qu'on est avec des gens qui, dans leur tête, sont dans quelque chose de précaire, dans de la survie.
Et justement, oui, Monsieur Santaki, est-ce que cette question, justement, de l'entrepreneuriat, c'est pas une manière aussi de reconstruire du politique, de l'engagement?
Bah, oui, c'est de toute façon, quand on monte une entreprise, il faut monter la structure, il y a des démarches, etc. Et puis, il y a aussi, quand on a sa boîte, on s'intéresse, en fait, à la société parce qu'il y a des choses qui nous lient, qu'on n'avait peut-être pas avant, quand on était autonome.
Oui, mais enfin, on est encore quand même dans le court terme, parce qu'aujourd'hui, tu montes ta boîte, 4 ans ou 5 ans après, tu la vends, et tu n'en as strictement plus rien à foutre de ce qu'elle devient. Donc,
on va redonner la parole à l'entrepreneur Sylvain Fagine, donc vous vouliez intervenir.
Oui, moi, ce que je voulais apporter comme témoignage, c'était en fait de dire que je ne comprenais pas pourquoi dès qu'on parle de la Courneuve, c'est pour dire que l'autre il a tiré sur l'autre il fait ci, l'autre il fait ça. Et pourquoi on dit pas que Sarah Warmoon, elle a été championne du monde, que c'est une maman entrepreneuse, que, et pourquoi on dit pas que, comme Osmo Puccino le dit, que la, les cités, c'est des plein de talents, des artistes, des athlètes, des artistes de haut niveau et des entrepreneurs. Mais et pour, qu'est-ce qui est plus intéressant pour un média? Et nous, ce qu'on demande, c'est aussi des modèles. Les modèles que la société nous impose, c'est tous les gens qui volent à qui mieux dans la caisse et qui ont juste une excuse à faire pour être exemptés de toute condamnation. Nous, aller faire des roues arrière ou essayer de faire 200 euros sur le trottoir, ça va se passer autrement que par des excuses. Donc, moi, je remets aussi en perspective le rôle des médias pour nous donner des modèles de réussite à long terme, à court terme. On a loi Tibi, on a le 113, on a beaucoup d'exemples de réussite. Pourquoi on nous donne que des exemples d'échecs?
Sur cette question justement de la représentation de la réussite ou de l'échec, Rachid Santaki, dans votre livre Business dans la cité, votre héros...
Fiction.
Voilà, votre héros, donc je précise bien, il fait le choix de rester à Saint-Denis alors que son entourage lui conseille de partir et ça va finir par lui coûter très cher. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une expérience que vous avez pu voir dans votre entourage, ce genre d'alternative à la fois sur la représentation donc, de la réussite ou de l'échec dans une banlieue? Est-ce que pour réussir, la représentation majoritaire aujourd'hui, ça consisterait à dire qu'il faut quitter justement son quartier ou y rester?
Ce que j'explique dans La France de demain, c'est qu'aujourd'hui, on est... l'image qu'on a de la banlieue, par exemple, moi, aujourd'hui j'habite à Saint-Denis. Et très souvent, la réaction c'est de me dire ah, mais t'es toujours à Saint-Denis. Mais Saint-Denis, j'écris des romans, je fais du terrain, c'est ma plus grosse matière. Donc pourquoi je vais me barrer? Et ça, les gens ne comprennent pas. En fait, le fantasme de la banlieue, c'est ah ben, t'as réussi, t'es parti, c'est que t'as réussi. T'es resté, c'est que t'as pas réussi. Et quand je me balade en vélo, les mecs ils se prennent la tête parce que, mais comment ça se fait qu'il est là? Ils savent très bien que je me débrouille. Donc c'est aussi ça, on a un fantasme de la banlieue, faut se barrer le plus vite possible. Or non, c'est pas vrai. Il y a des entreprises et ce sont des territoires sur lesquels on peut faire des choses. Alors je pense que ça va changer dans les décennies à venir parce que là, Seine-Saint-Denis, je pense qu'en termes de transport, il y a plein de choses qui vont se bousculer. Et là, on va voir que on va déloger en fait ces quartiers, ouais. On va les mettre dans le 77, etc. Donc c'est, il y a aussi ça. C'est
ouais, que j'espère que tu l'as. Non, j'espère que tu
ça a déjà commencé. J'espère que c'est la fiction. Ça a déjà commencé. Il y a des gens du 93.
Non, je sais.
Voilà, qui
je
sont sais. Envoyés à Potokombo dans le 77. Non,
mais je
etc.
sais, Rachid. Mais ce qu'il faudrait aussi évoquer, parce que là, évidemment, on n'a pas le temps de le faire, c'est que un des gros problèmes. Mettez-vous, allez un jour, si vous le voulez bien, devant le Stade de France. Autour du Stade de France, il y a plein de boîtes hors sol. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que des boîtes hors sol? C'est que vous allez voir, de sortie du métro et de sortie du RER, des centaines de personnes qui tous les
des
matins...
Milliers de personnes.
Des milliers de personnes qui se pressent tous les matins pour aller bosser dans les boîtes. Et vous voyez ces gens-là repartir le soir. Et
dans des bunkers, excuse-moi.
Absolument, dans les bunkers. Et qui les protègent de l'extérieur. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'à 18h, vous voyez aussi une population qui arrive à pied, souvent, pour faire le ménage. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers? Il se passe que le foncier est pas cher, donc toutes les grandes boîtes vont s'y installer. Et elles n'embauchent personne qui vient de ces quartiers.
En même temps, c'est du dégraissage quand elles viennent s'installer. Donc, il y a aussi
des aidants. Mais il faudrait parler de ça. Il faudrait aussi parler de l'éducation.
Il faudrait parler de beaucoup de choses. Pour terminer un peu cette émission, j'ai envie de vous poser une question très simple. Est-ce que finalement, ce qui se passe dans les banlieues est pas représentatif de ce qui se passe dans l'ensemble de la société? Le rêve, l'ambition, c'est peut-être d'aller faire fortune, de partir. On parle beaucoup du rêve de départ. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vivre ou que vous avez pu connaître dans vos entourages, dans vos expériences respectives? Serge Malik.
Moi, je vois. Quand je fais des salons, je vois très bien l'affluence qu'il y a au stand du Québec. Hein, tout le nombre de jeunes qui veulent se barrer, qui veulent aller au Canada travailler ou en Angleterre, en Belgique ou ailleurs, c'est juste hallucinant. Mais c'est normal, on leur donne plus.
C'est quelque chose qui est fort dans les banlieues que vous connaissez.
Et puis il y a un dégoût de la France aussi. Oui, malheureusement, il y a un bashing par rapport à la France et c'est dommage. Ça aussi, hein, c'est super.
Sylvain Fagin, vous voulez réagir?
Moi, je vais rester et essayer de donner des emplois à mes potes en banlieue, en tout cas. Parce que je crois en nous et je crois en ce que vous appelez la banlieue.
Eh bien, on va essayer de rester sur cette note positive pour terminer cette émission. Il y aurait eu 1000 choses à rajouter. On vous donne en tout cas rendez-vous pour en reparler à une prochaine occasion. Pour commenter, réécouter ou podcaster cette émission, franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Également, réécoute les 4 tables rondes du forum L'année vue par le numérique avec les vidéos de ces débats animés donc par Eve et Gardette. Du grain à moudre à la préparation, Cyril Baer, Céline Leclerc, Fanny Richer, Nafsika Papanikolaou. Franck Lilin était notre réalisateur aujourd'hui, à la technique Jean-Frédéric. Dès lundi, vous retrouverez Hervé Gardette en pleine forme. Hervé Gardette qui était donc souffrant aujourd'hui avec un sujet de saison, c'est Toussaint. Mourir, d'accord, mais en bonne santé.